Now ladies and gentlemen, this is Rockers.
Écoutez, malgré les nouvelles qui arrivent, vous voir vous battre avec un pied de micro, c'est toujours un vrai bonheur, l'homme face à la technique.
Il y a une explication tout à fait logique à ça, parce que normalement on est dans le superbe studio qui nous...
Non, attendez, en plus, vous avez un problème, c'est que votre micro ne marche pas. Est-ce qu'on peut essayer celui-là?
Non, le mien, attendez, je lui donne le mien, j'en suis là. Allez,
Non, il y en a qu'un qui marche, je vais regarder après. Allez-y.
Non, mais je ne sais plus quoi.
Sur le noir.
Ah, bah le noir, faut savoir. Mais arrêtez de me hurler dans les oreilles, c'est pas possible. Vous m'avez complètement coupé dans mes effets, là.
Je suis désolé.
Est-ce que c'est de ma faute, là, là? C'est dingue, on est de plus en plus mal entouré. Bref, vous écoutez les grignoux. Mais arrêtez de gesticuler devant moi, Tom. C'est incroyable. Heureusement
qu'on cherche la solution.
Et heureusement qu'on n'est pas à la télé. Je voulais tout simplement dire que vous écoutez les grignoux en direct. Voilà, je vais y arriver. Normalement, c'est entre 20h et 22h. Mais l'émission qui nous précède, putain, à chaque fois ils invitent un orchestre, ils prennent beaucoup beaucoup de place. Alors le temps qu'ils évacuent, on est obligé d'aller dans un petit studio où je trouve rien à la disposition, rien ne marche, pas de micro, etc. Bon, on se met un petit morceau de musique et ça va aller mieux.
Ouais, un petit morceau de musique. Il marche le rouge ou quoi?
Non.
Non, bah cherchez pas. Là.
Non, on en a qu'un. Je vais regarder après. C'est parti. On y va.
Alors, là, je vais faire.
I'll travel from a man to Mexico just to finally could clean. I might hitchhike or jump a railroad train. Your kind of love drives a man insane. To look for me walking just any old way.
Ah, et on, ça y est, ça marche, on a retrouvé nos studios d'origine.
Avec là, tous les micros qui marchent.
Tous les micros marchent. Ah, j'aime pas les micros. Bon, bref, je me détends, je me calme. Est-ce que j'ai dit qu'on écoutait les Grignoux ? Oui, je l'ai dit. Ah là là. J'ai pas parlé de la rediffusion le dimanche ? Non. Donc c'est rediffusé le dimanche après-midi vers 15h, 15h30, hein, jusqu'à 2h après. Voilà, voilà. Roger, vous êtes installé, je vous sens tout détendu.
Impeccable.
Eh bien, je vous laisse présenter l'émission.
Ah déjà, bah oui, bon allez, hop, on ne rigole plus, on présente l'émission. C'est vrai qu'on a dit bonjour avec un micro, en monomicro, j'ai un peu oublié. Ce soir, nous recevons, alors on va le présenter sous son nom de scène, monsieur Arthur Lukin. Arthur Lukin, que les vieux habitants de Rennes connaissent quand même depuis pas mal de temps, puisque ce monsieur décore la ville de Rennes, soit avec des superstructures sous forme de radis, soit parfois à l'angle de nombreuses maisons. Parce qu'il y a des adeptes du radis, c'est une espèce de secte qui semble avoir pris...
Non, s'il vous plaît.
Une secte, disais-je, qui semble avoir pris un peu d'ampleur. Et on va revenir sur tout ça, mais aussi, M. Arthur Lukin, il avait une autre vie, parce que le radis, ça nourrit pas son homme, surtout que parfois, il y a des gens qui les confondent avec des navets, vous voyez le genre.
Des betteraves.
Ah, c'est encore pire. Le navet, à la limite, j'aurais compris.
Oui, parce qu'il y a deux couleurs.
Ouais.
Et on est d'accord que ce sont des légumes. Mais j'ai une petite question à vous poser, Roger. C'est quoi un légume précisément?
Alors attendez, là-dessus, je finis de présenter Monsieur Arthur Lukin.
Non, mais je vous pose une question.
Et je réponds à votre question avec grand plaisir. Donc, il a deux vies, Monsieur Arthur Lukin. Donc, il est artiste et il a été aussi maître d'hôtel. Maître d'hôtel dans un restaurant bien connu, la place de Rennes, le Galopin, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et j'en profite pour vous dire bonjour, parce que
on n'a pas
eu le temps de vous laisser dire bonjour. On a été un peu chahutés, et puis avec le papy qui râle, ouais. vous savez comment c'est avec les vieux.
Il nous stresse du coup.
Ah, il nous stresse et tout, c'est pas rigolo.
Grand respect.
Et donc du coup, comment vous avez une double vie, vous avez été chef de rang donc au Galopin.
Non, maître d'hôtel, je vous prie.
Maître d'hôtel, oui, putain de Dieu, le talent, je l'avais dit bien.
Mais vous arrêtez pas de confondre en fait, mais on va en savoir un petit peu plus justement, voilà. En demandant la différence.
Et c'est aussi tout ce côté-là professionnel qui nous intéresse, parce que vous y avez passé toute votre vie professionnelle. Moi, je vous ai vu à l'œuvre à plusieurs reprises. Et donc, du coup, j'avais envie que vous nous parliez un petit peu de comment que c'est le monde de la restauration.
Un univers impitoyable.
Ouais, est-ce que c'est véritablement aussi un enfer? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui tournent.
Non, c'est un paradis avec moi, vous rigolez ou quoi?
Et donc, du coup, on en saura beaucoup plus sur les deux aspects de votre vie. D'abord, effectivement, votre voie professionnelle officielle, et puis votre autre voie professionnelle aussi, on va dire.
Voie VOX ou voie VOIE?
VOIE.
Ah oui, deux voies, oui, c'est vrai, au moins trois même.
On pourra parler après dans un deuxième temps, comme je disais tout à l'heure, de votre voie du futur, parce que maintenant vous êtes en retraite. C'est bien pour ça qu'on avait envie de parler des deux.
Les radis vont pousser à fond, je vais vous en mettre partout.
Voilà, c'est très bien, vous l'avez très bien fait. On s'écoute un petit disque et après on passe à votre rubrique.
Alors, c'est la programmation à Roger pour un peu.
Oui, j'ai mis Eat Steak.
Ouais, c'est bien, Eat Steak avec des radis en apéro, c'est très très bien.
Voilà. Ah, puis j'ai un bout de papier qui vient tomber de ma poche. Ah oui,
qu'est-ce qu'un légume?
Par exemple, je vais rajouter ma question là. Allez-y.
When you throw a few ribeyes on the farm, Roberta Duran ain't two before a fight, cause it gives a mighty man an awful lot of mighty mind. Eat steak, eat steak, eat a big old steer, eat steak, eat steak, do we have one deer, eat beef, eat beef, it's a mighty good food, it's a great A meal when I'm in the mood. Filet mignon, eat meat, eat meat, eat it
steak, eat a big old steer, eat steak, eat steak. Do we have one deer, eat beef, beef, beef? It's a mighty good food, it's a great A meal when I'm in the mood. Eat a cow, cause it's good for you. Eat a cow, it's a thing that goes moo. Cows in the slaughterhouse yard, gotta hit them in the head, gotta hit them real hard. First you gotta clean it, then the butcher cuts it up, throws it on a scale, throws an eyeball in a cup. Saw a big brave steer standing right over there, so I wrestled up a fire, cooked a medium rare. Barbecued his brisket, roasted his rump, fed my dog to the brave steer's hump. Eat steak, eat a big old steer, eat steak, do we have one deer, eat beef, 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 it's a mighty good food, it's a great A meal when I'm in the mood.
Alright, now ladies and gentlemen, this is Rockers.
Eh bien, je me suis trompé de jingle.
Qu'est-ce qui se passe ? Stop, c'est pas notre journée.
Mais non, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez voilà, compliqué.
Un micro sur trois qui marche. Là, vous vous trompez, en fait, dans les jingles. Ça fait des années, Roger.
Je vais vous le mettre parce qu'on l'a cette semaine.
Alors, peut-être. Alors, il y a des gens qui disent on serait au Moyen-Âge. Peut-être qu'il y a le mauvais œil.
Il y a un peu de ça.
Je regarde notre.
C'est la rubrique à qui ? Bon Dieu, c'est la rubrique à qui ? C'est la rubrique à qui, mon Dieu ? C'est la rubrique à qui, mon Dieu de bordel ?
Oh, mais c'est la rubrique à Roger !
Et voilà. Et donc, c'est la rubrique à Roger.
Bien, bien, bien.
Ça tombe bien parce que j'ai...
Alors, juste avant, parce que j'y tiens perso, parce que, comment dirais-je, c'est une petite dame, je ne sais pas si c'est une petite dame, elle s'appelle Marina... Ovsianikova, je m'étais entraîné, Ovsianikova, c'est une dame, c'est pas une petite dame, c'est une très grande dame, c'est celle, vous savez, qui, sur le plateau télé d'une chaîne russe, pouf, pendant le programme officiel, elle est passée derrière avec un espèce de panneau qu'elle venait de graffiter, pouf, disant halte à la guerre, etc., etc., le pouvoir vous manque, etc. Et cette dame-là, elle risque tout simplement déjà 15 ans de prison, quand on voit que Navalny a pris hier, il a repris chaud, encore 9 ans de camp de goulag, dans des conditions très dures, parce que cette fois-ci, pour escroquerie, on lui invente des sources de culpabilité, on n'en sort plus. Et cette dame-là, ça m'impressionne, parce qu'on a souvent coutume de dire, oui, par exemple, rappeler les antivax qui hurlaient à la dictature, etc., etc., en France. Et ben là, non. Là, effectivement, en Russie, on a véritablement une dictature, une vraie, en chair et en os, plutôt en os et en ferraille, je dirais. Et là, effectivement, cette grande dame, elle risque 15 ans de prison, parce qu'elle en a eu plein le cul, le pouvoir lui montait. Elle est d'un courage fou. La France lui a proposé l'asile politique. Elle a remercié la France, mais en disant que son pays, c'était la Russie. Donc elle comptait rester en Russie, qu'importe les risques qu'elle allait encourir. Et waouh. Et j'avais envie, pour en finir j'avais envie un peu de pourquoi pas dédicacer cette émission à cette grande dame, parce que elle vit dans une vraie dictature. Ouais, mais elle a véritablement elle a véritablement des baloches.
C'est pas n'importe qui aussi. Hein. Je pense que si ça avait été Madame Y qui serait venue de la rue pour faire ça, ça serait pas passé de la même manière. Tant mieux pour elle. Elle a eu le courage et ça faut le souligner de l'avoir fait tout simplement. Quoi, là,
parce que quelle que ce soit une dame de la rue ou une dame célèbre, elle risque quand même les 15 ans de prison. Il y a bien Navalny. Ça va être quelqu'un défendu. défendu par l'opinion mondiale.
Ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'elle a eu cette poussée médiatique, etc., qu'elle est connue, et que c'est pour ça que la France lui a proposé, si elle le souhaitait, de venir comme, je ne sais pas, réfugiée politique. Ce qu'elle a refusé, en tout cas, vous avez bien souligné.
Marina, Ovsianikova, vous êtes grande dame. Et c'est vrai que dans l'histoire, on a tendance souvent à étouffer la présence des femmes, et souvent, on l'oublie, mais les femmes dans la Révolution ont souvent été à la pointe. J'en prends par exemple, pour la Révolution 1789, lorsque les femmes ont été chercher le roi, la reine et le petit Mitron à Versailles. Ce sont les femmes qui ont accéléré le mouvement révolutionnaire en obligeant le roi à quitter Versailles, d'où il aurait pu plus... Et effectivement, le fait que le roi ait rejoint Paris le condamnait plus ou moins brève échéance à ce que ça se termine mal, et surtout le pouvoir royal était non plus isolé comme il pouvait l'être à Versailles, parce que Versailles et Paris à l'époque il y avait des champs entre, et dans les champs on pouvait mettre des troupes, et c'est ce que craignait par-dessus tout la foule parisienne. N'empêche que c'est les femmes qui ont été à l'initiative de ça. En décembre 1917, ce sont les femmes russes qui ont manifesté pour avoir du pain en pleine guerre, et petit à petit effectivement l'armée a refusé de tirer sur les femmes, et comment les ouvriers ont rejoint les femmes. Je ne vous parle pas là du coup d'état de octobre avec Lénine, qui est tout à fait différent. Je vous parle de la révolution de décembre, et encore une fois les femmes étaient à la pointe du combat.
Parlez pas de Lénine, je trouve ça intéressant là, ça me rappelle.
Voilà, et je vous rappelais qu'effectivement, les femmes, on les oublie. De quoi vous voulez que je vous parle maintenant ? Allez, il faut quand même qu'on le dise, il y a eu pillage, en ce qui concerne les programmes de... Il s'est pas fait chier, Macron, fort de ses sondages, il s'est dit, je vais pas m'emmerder à faire un programme, je vais copier-coller celui de la mère Pécresse. Et c'est quand même un peu scandaleux. On aurait imaginé quand même un peu d'originalité, un peu de, je ne sais pas moi, des trucs encore plus à droite qu'à droite, tout en nous les vendant à gauche. Et en fait, non. Il reprend exactement le programme, c'est pas fait chier. Décaler l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, c'est Pécresse. Conditionner le versement du RSA à des heures d'activité, sur ce que là-dessus j'en reviendrai, c'est Pécresse. Permettre la monétisation des RTT, c'est Pécresse. Alors les RTT, je vous explique, parce que là où on travaille, il n'y en a pas de RTT. Mais l'intérêt des RTT, c'est de dire on a besoin de plus de gens parce que les gens vont travailler moins.
Réduction du temps de travail, ça veut dire.
Voilà. Et monétiser les RTT, ça veut dire que les gens vont accepter de faire 250 heures parce qu'ils vont faire de la thune pour acheter de la merde. Bref, expulser systématiquement les déboutés du droit d'asile, c'est Pécresse, c'est Macron, avec une petite... Alors c'est rigolo parce que par exemple pour le RSA, Pécresse dit, bon alors ceux qui ont le RSA, il faudrait quand même qu'ils bossent 15 heures, hein, 15 heures par semaine. Non, Macron il dit 20 heures, ce qui fait quand même 80 heures par mois payées moins de 600 euros, ça nous fait le SMIC horaire à 6 euros. Ça, c'est pour la petite histoire. Supprimer les visas aux pays non coopérants, Pécresse-Micron. Élargir le cumul emploi-retraite. Non seulement on retarde l'âge de la retraite, mais en plus, vous pourrez continuer à travailler quand vous serez en retraite. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre non plus le travail de vos enfants, mais de vos petits-enfants.
Ce que vous sous-entendez, en fait, autant voter Pécresse.
C'est ce qu'elle dit.
L'original.
Elle dit d'ailleurs. Parce qu'il faut la voir. Cette espèce de grosse poule avec tous ces œufs fétides là, dont cumul, machin, toutes les lois pourries et tout. Il y a un vilain renard qui arrive, qui s'est déjà gobergé des œufs socialistes la première fois il y a 5 ans, et qui, après avoir pillé le poulailler socialiste, débarque, chez les Républicains, les pille, il les fout à poil, et il dit « Ah ah, voilà mon nouveau programme ». Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, je voudrais quand même revenir quand même sur cette histoire du RSA, parce que il est mal entouré, parce que c'est bien d'avoir des idées de droite comme ça, mais après c'est bien aussi d'être bien entouré, parce que il a été Castagnier. Castagnier, vous rappelez le ministre de l'Intérieur qui passait ses nuits en boîte de nuit, s'est fait en boîte de nuit pendant que les gilets jaunes, manifestaient dans Paris, et il a dit non, le RSA, pour essayer de justifier la proposition Macron, c'est dire le RSA, s'il vous plaît, c'est une honte, c'est l'argent des lâches. voyez ce que je veux dire? Et les gens, ils ont pas envie d'être des lâches, ils ont envie de travailler, quitte à travailler pour 6 euros par heure. On reviendra sur le salaire dans la restauration tout à l'heure. Bref, et dans tout le, enfin, 6 euros par heure, je ne sais pas vraiment comment ils peuvent, comment envisager de vivre avec ça. Et c'est le père Castex. Oh, pas méchant, important le père Castex, il paraît et tout. Mais qui se confond, il confond parce que t'as le président qui donne ses histoires. Et tu as les autres qui reprennent. Et Castex explique tout de go à la télé en disant, écoutez, mais non, c'est très très bien le CSA, comment dirais-je, à 80 heures de boulot payé 6 euros de l'heure, parce que vous pourrez faire des travaux d'intérêt généraux. Lapsus, parce que je ne suis pas véritablement sûr que c'est ce qu'il voulait dire, parce que il faudrait dans ce cas lui rappeler que les travaux d'intérêt généraux, ce sont des peines qui sont infligées quand on veut éviter à certaines personnes de faire de la prison. Et derrière ce lapsus, parce que je pense que c'est un lapsus, on se dit quand même qu'il y a quand même une petite image de punition, et c'est d'ailleurs le cas avec un autre élu de droite qui se frottait avec la maire Clémentine Autain à la télé l'autre jour, et qui dit, bah regardez, aux États-Unis, eux, les prisonniers, on les fait bien balayer les rues, on leur donne un peu de sous. Et là, Autain, elle boit du petit lait, elle lui dit, ah ouais, d'accord, donc les bénéficiaires du RSA peuvent être considérés soit comme des prisonniers, soit comme des délinquants, puisqu'on va leur imposer des TIG. Encore une réforme qu'on peut quand même qualifier un petit peu de droite.
Ouais, mais les gens vont pas voter pour ça, quand même, ou ils sont fous.
Bah alors, les sondages, vous savez ce que j'en pense, hein, moi, des sondages,
mais
bon.
Je vous écoute au pied de la lettre, là.
Ah, vous savez, les gens sont fous. Est-ce que vous connaissez monsieur Tanguy David, ou David Tanguy? C'est ça le problème des gens qui ont deux prénoms.
Bah oui, souvent, on a tendance à inverser l'un et l'autre. Ça me dit quelque chose, ou c'est le nom de Tanguy, ou.
bah oui, Tanguy, on en connaît, c'est David, courant. Et puis je vous accueille. En fait, non. C'est un drôle de bonhomme, Tanguy David. Bel homme. Les oreilles, c'est assez rigolo parce qu'il y a des gags là-dessus, c'est les oreilles bien collées sur la tête, ça, parfois il y a des gens qui ont des oreilles bien collées, mais surtout soutien du parti d'Éric Zemmour, d'ailleurs un des porte-parole au début de la campagne, un habitué des plateaux télé pour défendre Zemmour, et c'était d'autant plus cocasse qu'il était noir, enfin il l'est toujours d'ailleurs. D'ailleurs, il l'est toujours. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Il l'est toujours noir. Sauf mais que...
Vous parlez de couleur de peau.
Ouais, ouais.
Oui, mais après,
sauf que, attendez...
On peut être noir dans l'âme et
oui,
blanc,
et puis voilà, et puis blanc, et puis oui. Blanc dans la tête. Et là où c'est rigolo, moi je trouve ça un peu rigolo, c'est que il est renié par les Zemmouriens. En clair, dans son propre parti de facho, on l'incendie, on le traite de sale négro, et du coup, bouh, il couigne... Et il est incertain sur son avenir. Et ben, il se dit, peut-être que je vais aller vers les Républicains ou ce qu'il en reste.
Ouais, mais j'ai
Tanguy hâte... David ou David Tanguy, achète-toi un cerveau. Quand tu ressembles à un tirailleur sénégalais, hommage rendu d'ailleurs aux tirailleurs sénégalais qui ont donné leur sang pour la France, tu rentres pas chez Zemmour. Chez Zemmour, ils aiment pas les gens comme toi. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises.
Et sans entrer dans la politique politicienne, en fait, moi, ma grosse interrogation depuis le départ, depuis que Zemmour s'est présenté, c'est mais qu'est-ce qu'il fout là? Parce que je comprends rien.
Et ben vous dites merci, rien. Monsieur Bolloré, par exemple.
Non, mais c'est pas grave, je
m'en
fous.
Ah bah non, non, mais monsieur non, Bolloré mais... lui a permis de.
Roger, d'avoir un Roger, à part le fait de dire qu'il y a trop de musulmans en France, c'est quoi son discours global? C'est tout ce que je voulais dire, quoi. Autant les l'un, l'autre, ce que vous voulez, ont un discours global, réaliste, pas réaliste, ou démago, pas démago, c'est pas grave, quoi.
Il y a, y a
lui,
un
j'ai
fonds
toujours
de commerce.
Pas compris, en fait.
Il y a un fonds de commerce chez Le Pen. Il a voulu peut-être faire comme Macron avait fait avec le PS, mais lui, comme il est de droite, voire bien d'extrême droite,
avant de
le faire avec Le Pen.
Avant de se mettre un petit disque, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'histoire des sondages, et je rappelle que c'est un instant T, etc., là, et que les sondages peuvent évoluer à toute vitesse, et je crois que si on les regarde encore de temps en temps, on peut le constater. Zemmour, il était quasiment en deuxième position, quoi, là. Puis, bah, ça lui a monté la tête, tout ça, ouah, le pouvoir, ouais, ouais, je vais être le deuxième. Puis s'il termine 5, 6e ou 8e, bon, bah, il aura peut-être sa petite formation.
Ça bien après, fait pour sa gueule.
Son avenir politique, je sais pas trop. Être polémiste, c'est politique, c'est pas le même travail. On s'écoute un petit disque, Tom?
Bien sûr.
C'est mon tour, Tom?
Oui, c'est votre tour.
C'est mon Jerry Bryan, The Stalker de la semaine, Tom?
Exactement.
Eh ben, c'est parti. Jerry Bryan, The Stalker. Wow.
Et là, le morceau s'appelle The Stalker.
Eh ben, évidemment, parce que c'est Jerry Bryan, The Stalker.
Eh, vous décochez bien.
I'm
Et oui, alors on se dépêche, on se dépêche, parce qu'il est déjà 20h47.
Ça tombe bien, Roger, puisque vous me laissez une ou deux secondes. Et puis la tête qui fait. Vous n'avez pas quand j'interviens avec
Non, mais c'est papier. Surtout une ou deux secondes.
Non, mais c'est des brèves. Et quand je fais des brèves, Tom, vous pouvez témoigner.
Ah, c'est assez bref. C'est
ça ne dure pas deux heures.
Je ne vais pas vous reprocher de vous intéresser à l'émission.
Des petites nouvelles, mais non. Parce que vous m'avez toujours pas dit ce que c'était qu'un légume, mine de rien. Donc ça vous laisse le temps de vous préparer. D'autres petites nouvelles. J'ai appris quelque chose avec surprise. Je vais vous poser la question à vous, Roger. Le smiley, qui a inventé... Ah, je ne vous parle le nom, mais quelle est l'origine
Bob Smiley, d'ailleurs, tout le monde se foutait de sa gueule à l'école. Et comment il est devenu pote avec, vous savez, les géants du web, là.
Eh ben, moi non plus, je le savais pas. Je crois que c'était.
je
crois que c'était un ricain ou je sais pas, un truc comme ça, quoi. Eh ben non, en fait, c'est un Français. J'ai même son nom, je l'ai noté, qui s'appelle Franklin Loufrani. Et je me suis renseigné sur Internet, j'ai un Français qui a inventé le smiley, c'est surprenant, etc. Et effectivement, dans les années 70.
Et avec un nom pareil.
Ça, après, c'est vous qui jugez sur le nom.
Franklin Lou.
Attendez, je l'ai. Désolé, il faut que je remette mes lunettes. Loufrani.
Bah ouais.
Quoi?
Ouais, ça fait américain, je trouve.
Bah c'est un français. Franklin. Vous faites. Peut-être qu'on prononce Franklin, j'en sais rien. Bref, parce que j'ai dit que c'était des brèves. Là. Et j'ai regardé sur Internet que ça m'intriguait de la mort, mais est-ce que c'est vraiment lui qui a inventé le smiley? Eh ben non. En fait, ce serait...
Tout ça, France.
Mais non, mais je termine là-dessus, vous allez voir. Ce serait un Américain qui s'appelait Hervé Ball, je ne sais pas comment on prononce. Bref, c'est pas grave, qui avait fait ce petit smiley. C'est un publicitaire pour une boîte d'assurance qui voulait remonter le moral de son personnel. Trouvez-nous l'idée, hop, il a vendu le smiley. Sauf qu'il a fait une erreur de la mort. Alors, je rappelle aussi que le journaliste, c'est un journaliste... Loufrani, pour simplifier, avait mis ça dans François au début des années 70, parce qu'il trouvait que François transportait trop de faits divers, de nouvelles. Bon, on va mettre un petit peu un sourire, un truc comme ça, clac, le fameux smiley. Quelle a été l'idée de génie de ce mec-là qui ne l'a pas inventé? C'est d'avoir déposé, en fait, le modèle. Et à partir du moment où il a déposé le modèle, il en devient propriétaire. C'est comme ça. Et tous les modèles de smiley que vous voyez, qui sourit, etc. Enfin, bon, vous avez sûrement un smartphone, et vous voyez ce que je veux dire, en fait, ça paye. Et il a monté une boîte, et c'est son fils qui a repris. Et il touche à peu près, en chiffre d'affaires, hein, je parle, 190 millions d'euros par an. Voilà, tout ça grâce à un petit truc que le mec Harry Ball n'avait pas déposé. Petite histoire au passage.
Ouais, c'est pas très moral.
Non, mais non, pas vraiment.
Faut faire gaffe aux infos. Parce que je vous dis, moi, ça avait extrêmement surpris. J'ai fait des recherches sur Internet. Et là, la surprise est un peu plus nuancée, en fait, quelque part. Je peux continuer deux secondes. Le discours de Poutine, ça m'a fait marrer. Vous savez, dans un stade avec 100 000 personnes, des fans inconditionnel, quoi. Et subitement, je sais pas si vous avez entendu à la radio ou à la télé.
Ah, ça a coupé.
Ça a coupé, clac, ça embraye sur un concert live. Et en surprise des journaleux, etc. Et a priori, ce qui serait passé, c'est que ça avait été enregistré quelques minutes avant. Il y avait un décalage, en fait, horaire. Et puis qu'il y a un con qui a dû appuyer sur le mauvais bouton et c'est revenu au direct. Et ce qui a fait que la dernière partie de Poutine aurait, je parle au conditionnel, aurait été coupée à cause de ça. Alors qu'il parlait de la valeur intrinsèque des soldats russes qui se battent pour lutter contre le néo-nazisme en Ukraine, patati patata. Avant-dernière chose, vol de pharmacie.
Avant-dernière ?
Oui.
Tout à l'heure, vous disiez que c'était l'avant-dernière.
C'est bref. Ah ouais, mais après, vous êtes tranquille pour un moment. Je vous avais dit tout à l'heure, en préparant l'émission, que j'avais parlé de pharmacie. Alors, un fait divers, vous avez peut-être vu dans West France. J'ai une pharmacie à côté de chez moi, dans le square Sarah Bernard, en fait, où j'y vais régulièrement, parce que c'est ma pharmacie, bordel. Elle s'est fait braquer la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi. Rien d'exceptionnel, malheureusement. Sauf que les petits cons qui ont fait le coup se sont un peu plantés, parce qu'il suffit de traverser une rue, et il y a un petit ensemble de bâtiments qui sont les logements de fonction de la gendarmerie. Et les branleurs, ils sont passés pour ouvrir les caisses enregistreuses qui n'ont pas réussi à ouvrir sur place. À ce moment-là, des gendarmes reviennent de patrouille, les surprennent, taillot, les branleurs sont partis. Mais le lendemain matin, c'est véridique, hein, ce que je dis, entre 9h et 10h le matin, ils sont revenus pour récupérer leur caisse enregistreuse, forcément, dans une enceinte de gendarmerie. Ils n'ont pas fait le feu. J'ai trouvé ça tristement rigolo, mais merde, quand on est con, on est con. Dernière chose, je vous jure, c'est la dernière, ça va être rapide. Je vous avais dit que les non-utilisateurs forcés, comme je l'ai été, de Linky, seraient punis. Je sais pas si vous avez entendu la nouvelle, en fait.
Mais là. Si, j'en ai parlé la semaine dernière.
C'est vrai?
Ouais.
Alors là, vous avez les chiffres officiels?
Alors, j'ai pas les chiffres officiels, mais en tout cas.
C'est pour ça que je vous en parle.
Ceux qui ont refusé le compteur Linky seraient taxés de je sais plus combien d'euros.
50 euros par an cette année et ça au
sauf que. Allez-y, continuez. Comment? Ils ont toujours la possibilité de transmettre le relevé de leur compteur et dans ce cas-là, la taxe ne s'applique pas.
Après, j'en sais rien.
C'est ce que j'ai dit la semaine dernière.
50 euros par.
Mais là, rien.
J'ai pas compris.
Si vous relevez vous-même, il vous en.
Voilà. Ah oui, mais ça, je le savais pas. Je demandais.
Mais je l'ai dit la semaine dernière.
Ah oui, mais on.
Ah, je vous jure.
Et vous saviez que c'était la somme de 50 euros par an la première année et que ça allait augmenter progressivement. Non, c'est pour vous alerter.
J'ai juste à transmettre le montant de la. Puis voilà.
Du coup, vous donnez ce que vous voulez.
Voilà. Ah, voilà.
C'est top.
Ouais, sauf qu'à mon avis, ils vont finir par vérifier.
L'innocence même. Après, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pas eu le choix. On m'a linkilisé d'office dans mon immeuble. Je suis même pauvre sur mes compteurs. Bref, et vous êtes linkilisé.
J'y peux rien. Je dis juste, moi, je me suis fait gaspariser avec le gaz.
Vous n'avez rien dit là.
Le compteur du gaz et l'extérieur, on peut rien dire.
Et vous n'avez pas une dernière brève?
Oh, j'en ai une petite, mais ça.
Non, mais
vous avez vu dans quel état il est.
Mais couilles, parce que c'était l'avant-dernière et après c'est dernière, donc ça suffire. Moi, j'ai toujours mon débat sur le CBD. J'ai toujours mon débat sur le CBD avec, vous savez, cette fameuse interdiction qui était tombée. Alors, je récapitule parce que c'est assez long. Le 31 décembre 2021, pouf, Darmanin pond une interdiction des fleurs de CBD dans les boutiques qui faisaient Florès, par exemple, dans des villes de Saint-Brieuc, qui concourait quand même à renouveler le parc commercial de la ville. Hein, 50 boutiques de CBD, ça décore. Je ne sais pas s'ils vont tous faire des sous. Or, comme 70% de leur chiffre d'affaires consiste à la vente de fleurs de CBD, c'est-à-dire de CBD mais sous forme de fleurs, comme peut l'être
sous la forme de
la
thé,
marijuana,
de mixture de tout ça.
Eh bien, c'est ça qui était visé par cette interdiction. Sauf que, entre-temps, il y a une association, il y a un syndicat désormais des vendeurs de CBD, qui ont porté plainte auprès du Conseil d'État, qui ont eu raison, et le Conseil d'État leur a donné raison, et de nouveau, ils ont de nouveau le droit de vendre du CBD sous forme de feuilles, malgré les oukases de Darmanin qui dit oui, alors qu'on est en train d'augmenter le prix des clopes, je me vois pas.
Vous avez un truc après Darmanin, je sais pas si vous avez.
Quand on dit de la merde, j'aime bien un peu le souligner aussi. Il dit, d'une manière générale, toutes les substances qui relèvent du cannabis, de la drogue, sont très mauvaises pour la santé. On va pas augmenter le prix du tabac à 10 euros pour qu'on accepte la légalisation ou la dépénalisation du cannabis. Encore une fois, on parle pas du cannabis, on parle là simplement CBD.
On parle du cannabis, c'est une des composantes du cannabis.
CBD, il n'y a pas de THC, donc on ne parle pas de la même chose. Et Darmanin, l'ambiguïté sur le produit, en disant que le CBD, c'est du cannabis, entretient cette espèce d'ambiguïté qui fait que tout simplement, c'est parce qu'il ne souhaite pas que les vendeurs de boutiques de CBD le vendent sous forme de fleurs, parce que sinon les flics ne pourront pas faire la différence quand ils vous choperont dans la rue.
Une analyse à 2000 euros, c'est pas compliqué.
Et là où ça devient franchement cocasse, c'est que vous devriez lire la rubrique micro-sillon dans Ouest France. Micro-sillon, super jeu de mots en rapport avec les sillons de l'agriculture, les sillons que fait la charge.
Vous êtes la seule personne au monde que je connais qui lise la rubrique micro-sillons.
Gens ont tort. Parce que le 4 février, alors c'est un article que je voulais caler, mais comme ça n'arrête pas de bouger autour de ça, très attendu par la filière du chanvre, l'arrêté autorisant la récolte de la fleur et de la feuille est paru au journal officiel du 31 décembre. C'est-à-dire que le même journal officiel qui interdisait la vente du CBD dans les boutiques, la vente
des
CBD sous forme de fleurs
Voilà,
sous forme de fleurs dans les boutiques de CBD comment publier un autre article, mais là cette fois-ci c'est dans le rayon agriculture. Désormais, l'utilisation industrielle de toutes les parties de la plante et non plus uniquement de la fibre et de la graine est possible, permettant ainsi une valorisation complète du chanvre, ainsi le cannabidiol, mais aussi d'autres cannabinoïdes, dont stupéfiants, le CBG, le CBC, etc., pourront être fabriqués en France. Cet arrêté pris par le ministère de la Santé précise que seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre. Ces dernières ne peuvent être récoltées que pour la production industrielle d'extrait de chanvre et non pour une utilisation sous forme brute ou en tisane.
Oui, là, mais...
Et j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on va avoir un ministère de l'Agriculture qui, dans ce même journal officiel, va dire hey, les gars, vous allez pouvoir arrêter le maïs qui bouffe de la flotte et planter du chanvre qui est beaucoup, qui est dépolluant, je crois, en plus, et qui est beaucoup moins, exigeant en flotte. Et nourrir vos bestioles, faire des tas de choses, et en même temps, dans ce même journal officiel, publié cette fois-ci non plus par le ministère de l'Agriculture et de la Santé, mais par le ministère de l'Intérieur, un arrêté qui interdit la vente de CBD. Allez comprendre.
Alors, un truc pour conclure aussi, moi, ce qui me surprend,
moi, ça me trouve cul.
C'est les magasins de CBD sur Rennes, ça, putain, ça fleurit comme une fleur de CBD quelque part. Et la rue Saint-Hélier...
Ça devrait faire plaisir, la Startup Nation.
Que je fréquente plus ou moins régulièrement. Qu'est-ce que j'ai vu de nouveau la dernière fois? Un magasin de CBD. Je ne sais pas s'ils vendent des fleurs ou quoi que ce soit. Juste
là, ils ont
devant,
de nouveau le droit de vendre des fleurs.
J'ai vu dans un bureau de tabac, ou dans des bureaux de tabac au pluriel, en fait, CBD. Alors là, c'était version
liquide,
on va dire. Quoi. Mais même les bureaux de tabac vendent du CBD. Bon, bah,
Non, mais sous forme liquide, comment l'arrêter
de
Darmanin...
C'est la fleur, il n'y a pas le droit.
C'est sous forme de fleurs. Mais ce qui est marrant, c'est le même jour, on a un article qui dit exactement, qui encourage. Alors d'un côté, on va avoir une partie du gouvernement qui va inciter les agriculteurs à produire du chanvre. Et de l'autre côté, on va avoir du ministère de l'Intérieur qui va dire « Non, mais le chanvre, vous le mettez dans le cul parce que... » Pas
puis,
question.
Petit détail aussi sur le CBD, c'est pas donné. Il faut sortir les sous quand même. Mais de l'autre côté, il peut y avoir source d'arnaque. Moi, je suis dealer. Hop, j'achète du CBD en fleurs et je refile à... T'as vu, c'est de l'air. Moi, je fais confiance. Je vois ça, c'est la même plante. On peut pas faire la différence à part analyse, quoi. Et après, je me fais avoir, quoi. Mais ça coûte la peau des fesses.
Mais il est déjà 20h59, l'heure tournée n'est plus que temps. Je vois notre invité qui se ronge les ongles, qui se dit qu'est-ce que je suis venu voir écouter deux vieilles poches raconter leurs conneries. Alors que je pourrais être.
C'est un peu ça, mais je me serais jamais permis de dire.
Ouais, moi,
vous pouvez
lire dans les pensées des invités.
Et vous avez vu, je suis intervenu 10% du temps, à peu près.
Ouais, c'est ça.
Manière cumulée.
Allez, 21h.
Don't you hear a way to the moon? vous les obscurs, vous les sans grade, vous les rebuts des médias, ceux dont la vie ne compte pas. Jean-Louis Roger, les Grignoux, vous donne la parole, car pour eux, vous êtes un grand témoin.
Voyez, je vous avais dit, ça se terminerait bien.
Merci, ça m'arrange.
Vous les obscurs, vous les sans grade, ouais, je comprends pas, qu'au début vendeur. Ça puisse surprendre. Mais, hein, vous êtes un grand témoin, et justement, nous recevons ce soir, je le précise, pour tous ceux qui, les goujats qui ont pris l'émission en cours, à savoir que nous recevons ce soir monsieur Arthur Lukin, je le prononce bien.
Monsieur de trop.
On aime bien chez les Grignoux entretenir quand même effectivement une forme avec certaines distances avec nos invités. Et donc du coup monsieur Arthur Lukin qui a deux vies en fait. J'ai d'abord moi découvert votre toute première vie, votre vie professionnelle qui était celle d'être maître d'hôtel dans un restaurant, bon, on peut dire son nom, hein, c'était le Galopin, c'est bien ça?
Tout à fait.
Avenue Janvier. Et je vous ai d'abord découvert effectivement comme maître d'hôtel et puis après j'ai découvert que vous n'étiez pas que maître d'hôtel, vous étiez également artiste. On dit un peu artiste en Bretagne, on prononce pas trop.
Non, c'est pas vrai.
Et comment dirais-je ? Et donc du coup, dans une deuxième partie de l'émission, ben on abordera, parce que moi j'aime bien, moi ça fait longtemps, je vous dirais tout à l'heure, je parlerai aussi parfois des polémiques, des gens qui vous ont parfois, quand je disais que je vous avais interviewé un jour, des collègues qui disaient « Ah oui, mais il est stipendié par la mairie, tout ça », alors que justement c'est absolument pas le cas, et j'aimerais bien, comment, puisqu'on a l'occasion de vous voir, retordre le cou un peu ces idées-là qui me font un peu, personnellement, mal au cul, tant chez vous, je vois dans votre preuve une obsession, comme pouvait l'être celle, par exemple, du facteur cheval, par exemple, qui est aujourd'hui portée au nu par les intellectuels, alors qu'ils auraient craché dessus lorsqu'ils l'auraient vu ramasser ses cailloux dans son sac de la poste.
Même pas peur. Donc on va ça va bien se passer pour moi.
On va peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire parler de votre vie professionnelle, parce que j'ai pas mal de questions justement entre Roger qui confondait maître d'hôtel et du coup j'ai oublié la
maître d'hôtel.
Ouais, chef de rang.
Et chef de rang. Et puis, vous, ça vous fait marrer, mais nous.
Ah oui, ça me fait marrer. C'était mon métier pendant plus de 40 ans. Alors.
Mais
ah
nous,
oui.
Nous qui sommes pas du milieu, c'est un serveur, on va dire. Et c'est pas péjoratif, hein, dans ma bouche. Alors, moi, j'aimerais bien revenir aux origines de la restauration. Est-ce que vous l'avez fait par amour, en fait, ou est-ce que vous l'avez fait par nécessité, cette formation en école hôtelière?
L'amour, il est venu après.
Ouais.
Au départ, c'était une logique incontournable.
C'est dans quel sens, pour traiter du travail à coup sûr ou le...
Non mais bon, moi mes parents étaient dans la restauration.
D'accord, ok, il y a un suivi en fait.
Complètement.
Vos parents tenaient un restaurant?
Ah oui, enfin il y avait un divorce, donc c'était surtout mon père qui avait suivi le... Mais voilà,
c'était une suite logique,
un beau restaurant, et enfin beau restaurant gastro, on va dire, voilà, référencé, machin. Et le fait est que c'était pas ça qui m'attirait, c'était pas les paillettes qui m'attiraient, c'était le fait que il y avait des gens, ça bougeait, il y avait on rencontrait des gens. En fin de compte, je crois que inconsciemment c'était ça.
Votre papa était cuisinier ou il était dans la salle.
C'était le gars qui était dans la cuisine à couper un bout de turbo ses poissons et les apporter sur un torpilleur, c'est un grand plateau, et les amener avec son tablier pas forcément très propre, puisqu'il travaillait dans la cuisine.
De l'époque.
Et amené dans une salle où il y avait maître d'hôtel et chef de rang, et tous en cravaté avec nos papillons et compagnie, et aller aux tables des clients et leur poser le plateau devant eux, et leur dire vas-y, choisis son poisson, choisis ton poisson. Et puis le gars, il disait turbo, là, hop, et puis il retournait dans la cuisine, c'est grillé comme ça, bon, voilà, le délire.
Donc vous êtes
le plaisir.
Vous êtes né un petit peu dans le.
Oui, je suis né dedans, bien sûr.
Et quelque part, c'était une suite logique dans votre esprit de dire, je vais faire de la restauration, quoi.
Ouais, ça s'est passé. Ah oui.
Mais pas la cuisine, le service, du coup.
Oui, le rapport avec les gens. Génial.
D'accord, c'est le côté convivial de la chose.
Ouais, c'est même plus de la convivialité, c'est de la reconnaissance de l'humain.
Plus que la cuisine. par contre.
Bah ouais, ouais, je, ouais, oui, 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 oui. J'ai fait l'école hôtelière, donc j'ai appris à servir dans la plus grande tradition française de la gastronomie. Donc service à l'anglaise, service à la russe, découpage de poisson, découpage, flambage et serpillière aussi. Et quand on démarre, mais voilà.
Justement, cette école hôtelière, parce que pareil, je vois ça de manière, on va dire étrangère. C'est quoi ? C'est combien d'années d'études ? C'est dur. Enfin,
ça dépend, moi, à mon époque, donc je vous parle de 1976, ouais. J'avais 16 ans, hop, je parle à l'école hôtelière, je fais l'ouverture de Dinard, puisque c'était...
Oui, c'est l'établissement côté, on va dire.
Voilà, ouais. Donc je viens de ma Bretagne plus profonde, encore plus, c'est plus à
vous
l'ouest.
Vous venez d'où ?
Pérouzirec, enfin, à côté.
Non, c'est pas possible.
Bah, bien sûr,
c'est Pérouz. Il est de
pas très loin, ouais. Voilà, de
Trélévern.
Ah, un peu plus.
Louanec.
Ah, Trévoux, Tréguignac.
Ah, Trestel, bah, en fait. Attends, je connais ça par cœur.
Ah, bah, on va en discuter. Roger, vous mettez un long disque, là. Allez, on vous laisse continuer. Donc, alors, l'école hôtelière.
Oui, l'école hôtelière.
Donc, alors, à Dinard, c'était les débuts de Dinard.
Pour apprendre comment ça se faisait. Et puis après, je suis parti à l'étranger pour apprendre la langue, pour être sûr que c'était en Angleterre. Et puis, mais entre-temps, j'avais rencontré une petite amie et qui m'a fait revenir en France. Et comme elle était parisienne, et ben je suis allé à Paris et j'ai bossé pendant 15 ans à Paris. Mariage, les enfants, le vrai travail, c'est la restauration. Enfin, non, c'est pas le vrai travail, c'est ce dont on peut parler là. C'est-à-dire la rencontre des gens.
À votre époque, l'hôtel, enfin, le lycée hôtelier, je me mélange peut-être dans mes termes, c'est pas rare. Est-ce que vous avez eu ce qu'on appelle, parce qu'il y a beaucoup de réputations pas très très claires en termes de formation avec les cuisiniers, etc. Où on dit c'est dur, quoi. Enfin, ce que j'appellerais la vieille école où les gens ont tendance à hurler plutôt qu'à expliquer. Je sais pas comment. C'est une question que je vous pose.
Oui, comme ça, à votre époque. On se fait pas des bisous. Quand le chef, il cause.
C'est le chef,
il cause.
Avec
il cause. Ouais, ah ouais, il y a une hiérarchie, il y a une logique, il y a une organisation. Moi, j'aimais bien. J'étais un bon exécutant. Et donc, j'ai gravi un peu les échelons. Et quand j'ai terminé ma carrière, là, très peu de temps, eh bien, j'étais maître d'hôtel. C'est-à-dire que je pouvais dire c'est ça qu'il faut faire.
Oui, hein, comme ça.
Bah voilà, vas-y. Bah oui, sur ce ton-là.
En tapant sur la table.
Bah oui, oui, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste effectivement la fonction de maître d'hôtel, du coup ?
C'est celui qui met de l'huile dans les rouages entre justement les tensions qui peuvent se présenter dans quand il y a le coup de feu, hein, dans un service où ça crie de partout, ça court de partout, et donc lui, il gère, il est entre les clients et les cuisiniers. C'est-à-dire, le client, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un steak très très cuit, mais même si ça dérange le cuisinier, et il veut de la salade verte et sans vinaigrette, et puis voilà, il veut un truc particulier. Ah, et ben qu'est-ce qu'il fait le maître d'hôtel ? Il fait en sorte que on lui apporte ce qu'il a demandé. Donc c'est ça. Et c'est toujours bien sûr en connexion avec le cuisinier.
Donc vous avez intérêt à bien vous entendre avec le cuistot.
C'est pas de l'entente, non, c'est juste c'est du professionnalisme, c'est un rapport.
C'est une cohabitation.
C'est une cohabitation, c'est ça.
Ah ouais, carrément.
Ouais, ouais. Faut gérer, hein.
Le fait d'avoir votre papa qui était dans ce milieu, ouais. Ça a dû vous aider d'ailleurs, justement, peut-être, non ?
M'aider en quelle sorte ?
L'ambiance, vous connaissiez déjà l'ambiance.
Oui, oui, mais c'est des rapports humains, ça, des rapports humains de travail. Donc, dans un système particulier, puisque un restaurant, quand c'est un coup de feu, ça pète de partout. Enfin, mais c'est aussi un super balai. C'est pour l'œil extérieur, c'est aussi des rouages, une belle mécanique. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, à quel moment il doit le faire. Et puis, quand il n'y a pas de fausses notes, c'est un grand plaisir de servir plein de gens, de les rendre heureux, parce que c'est la finalité, hein, c'est de...
Je voudrais vous poser une question naïve, vous allez me foudroyer du regard, j'aime bien poser les questions naïves en fait, mais c'est vrai que serveur, pour moi je vois ça à la pizzeria, le restaurant classique, etc. Je dis, il ne faut pas les années d'études pour faire serveur. Vous allez me dire, c'est pas vrai, je suppose
Non, je ne vais pas vous dire que c'est pas vrai, je vais vous dire que ça dépend des gens. Y a des serveurs qui sont nuls, et puis il y a des serveurs qui sont bons.
Mais je parle en termes de formation.
La formation, ça s'arrête jamais. Moi, ça fait un mois que je suis à la retraite, mais il y a un mois et demi, j'apprenais encore. J'apprenais encore dans le rapport humain, j'apprenais encore dans le fonctionnement. Et c'est de l'humain, un restaurant, c'est de l'humain. C'est un théâtre, et puis c'est en même temps de l'humain. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui m'a nourri le plus, voilà.
Et une autre petite question, naïve aussi. On entend souvent, ouais, entre les serveurs, hein, c'est pas péjoratif dans ma bouche, et la cuisine, ils se fritent, etc. C'est une légende ou c'est
non,
vrai,
c'est pas une légende, bien sûr. Nous, on était les Fenwick. Fenwick, vous savez, les
pour transporter,
voilà, t'es juste un mec
qui
ouais, voilà. Et puis les cuisiniers de l'autre côté du pass, et ben, c'était les graisseux. Pas très heureux en fin de compte. Ça, moi, ça me plaît pas trop, mais c'est vrai que dans le milieu, c'était.
Il y a eu des tensions. Est-ce qu'il y a une hiérarchie du coup entre les graisseux et les Fenwick?
Vous voulez dire que les uns seraient plus importants que d'autres?
L'un sans l'autre, ça marche pas. Hein.
Bah, le chef de cuisine devait être payé plus que moi, par exemple.
D'accord.
Pourtant, Dieu sait que j'étais quand même vachement bon.
Une dernière question avant de passer un petit disque. On se trompait entre chef de rang et l'autre fonction.
Maître d'hôtel.
Merci, Roger. Oubliez. C'est quoi la différence en fait entre les deux? Parce que pour moi, c'est... Grosso modo, c'est pareil.
Non, un maître d'hôtel, c'est celui qui va gérer plusieurs chefs de rang. Des rangs, c'est par exemple 6 tables. Toi, tu as ce rang de 6 tables, tu t'en occupes. Puis tu as peut-être un commis aussi. C'est une hiérarchie, c'est ce qu'on appelle une brigade de restaurants. Il y a commis de salle, commis débarrasseur, c'est la base. Commis débarrasseur, il fait que débarrasser. Commis de salle, il va mettre les couverts. Chef de rang, il va faire en sorte que le commis de salle fasse bien son boulot. Et le maître d'hôtel qui est encore au-dessus, va regarder les autres.
C'est différents. Un peu le chef d'orchestre, quelque
c'est
part.
C'est un chef d'orchestre,
mais
tout
déjà,
à fait.
Ça, par contre, je tiens à préciser, ça n'existe que dans certains restaurants.
Oui, il faut une brigade. Il faut au moins plus. Pas mal.
Il y a combien de
gens.
Restaurants à Rennes qui fonctionnent en brigade, vous savez?
Oh, il doit y en avoir quelques-uns. Alors, ça dépend de la taille des établissements, bien sûr. Et même des petits établissements, il peut y avoir l'arpète, le commis, et puis un chef de rang, puis basta. Il n'y a peut-être pas de maître d'hôtel, mais bon, au moins, et puis il y a la patronne ou le patron. Ça dépend de la configuration. Enfin, c'est toujours différent. Hein.
Et c'est marrant aussi dans les termes que vous employez ou qu'on emploie souvent en restauration, ça se rapproche des termes militaires. Vous parlez de brigade, de coup de feu, de...
Oui, tout à fait.
Parce qu'il faut une organisation, on va dire, quasi-militaire.
Ah, complètement.
Hyper réglée.
Ouais, ça doit être très, très précis, ouais.
Eh ouais, t'as jamais bossé en brigade, toi?
Ben, toi, vous non plus, Roger.
Allez, bon, un petit
c'est parti.
Break up.
Eh bien voilà. Alors que Jean-Loup s'amuse à jouer avec la lumière et qu'on a l'impression d'être sous les sunlight de la Gestapo, nous reprenons notre interview en direct. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Arthur Lukin, donc deux personnes en une, en fait. On va terminer sur la première personne, c'est-à-dire la personne professionnelle. Vous êtes devenu maître d'hôtel, j'allais dire chef d'hôtel. J'ai failli merder.
C'est moins pire.
Vous êtes devenu comment ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette période au galopin ? Nous parler du galopin, nous parler du boulot et tout ça. J'aimerais bien qu'il réponde.
Non, mais je voulais juste parler de votre parcours qui précédait le galopin. Vous avez été à droite à gauche.
Ah ouais, mais là, c'est plus la même question, là.
Non, mais après, mais c'est la suite de carrière.
Non, mais on peut revenir.
La suite de carrière logique, 15 ans à Paris, dans différentes brasseries de luxe, avec un travail de faire les miettes sur des nappes blanches, et puis de regarder les gens, d'écouter, d'entendre les gens, c'est surtout ça. Et puis d'être à l'affût pour que les gens passent un bon moment, c'était un vrai travail de service.
Moi, j'aimerais bien avoir des anecdotes. Vous devez avoir des anecdotes particulières.
Ça, c'était la question suivante, Tom.
Ben oui,
bien sûr que j'ai des anecdotes. 40 ans de boulot.
Ben voilà, sur des clients un peu chelous.
J'ai écrit un bouquin exprès pour ça, dans lequel je décris effectivement tout ce que j'ai pu. J'ai même écrit deux bouquins sur la restauration. Enfin, sur cette aventure de 40 ans dans ce milieu.
Qu'on peut toujours trouver. Ouais, les livres.
Ah oui, bien sûr, n'hésitez pas, ça s'appelle « J'aime les gens », le titre, par exemple celui-là, il s'appelle « J'aime les gens ». Et « J'aime les gens », c'était vraiment la base, quoi, on ne peut pas faire ce métier-là si on n'aime pas les gens. Donc on peut rien faire, de toute façon, si on n'aime pas les gens.
Donc, pour répondre à Tom, en fait, si vous voulez en savoir plus, achetez mon livre.
Exactement.
Très intelligent.
Oui, mais vous pouvez nous en lire un extrait.
On a prévu du son, on a prévu des choses, mais alors, leur tourne.
Sur les racines, c'est on parlera plus.
Voilà, mais on parlera de ça plus tout à l'heure.
Mais si vous voulez, le début de mon bouquin, c'est très simple. Ça s'appelle donc « J'aime les gens ». Et la fourchette à gauche et le couteau à droite, c'est la règle. Une des nombreuses règles de notre métier. Alors si tu veux apprendre, mon gars, ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Commence par revêtir ton habit de lumière, l'uniforme de ta fonction, Spencer aux boutons étincelants et chemise immaculée, ton image à déportance, car tu es la vitrine de ce lieu de réjouissance, la partie apparente de l'iceberg.
Oui, apparemment, vous avez été élevé à la vieille école, hein, si c'est un chef qui vous parlait comme ça, ou le patron.
La vieille école, j'ai plus de 60 balais, donc c'est sûr.
Donc alors,
la vieille école, ouais.
On va revenir à sur cet aspect artistique au sens là, mais j'aimerais bien qu'on conclue sur le côté, on va dire, professionnel. Donc vous allez à droite à gauche donc à Paris etc.
Ouais.
Et puis au bout de quelques temps vous arrivez à Rennes.
Oui.
Et puis là vous travaillez au galopin.
C'est ça, je suis arrivé un jour, j'ai posé mon CV dans différents établissements, je connaissais pas la ville, et puis le lendemain matin, il y a le patron du Galopin qui m'a embauché et je le remercie encore parce que j'y ai passé presque 30 ans. Donc c'était génial. Sur la ville, apprendre la ville par l'intermédiaire d'un lieu de convivialité comme ça, c'est plutôt agréable.
Alors le Galopin, c'est quoi ses particularités ? Alors déjà, il y a une brigade, donc s'il y a une brigade, c'est que ça doit être assez grand, c'est que ça doit dépoter un peu, doit y avoir du monde à passer.
Exactement.
Est-ce qu'on pourrait... donc c'est une brasserie, le concept.
Brasserie de luxe, ouais, un beau service, une belle assiette, un décor sympa, enfin tout un lieu où, bon, c'est un lieu de business pour certains, c'est un lieu de retrouvailles amoureuses pour d'autres, c'est un lieu où on va fêter son anniversaire, et que j'arrive avec mon gâteau de 3 étages avec des radis partout et que je chante Happy Birthday, je pourrais vous chanter Happy Birthday si vous voulez.
Et puis une autre question si pratique, parce qu'on entend souvent parler, là je parle de salaire en fait, le SMIC hôtelier en fait, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qui différencie le SMIC hôtelier du SMIC classique ? C'est plus d'horaire pour même prix ?
Je n'ai aucune idée.
C'est vrai ? Oui, si vous avez toujours travaillé dans le milieu de la restauration, là, juste savoir en fait si vous deviez plus d'heures ou je sais pas.
Les heures, on ne les compte pas. Enfin, moi, j'ai jamais compté mes heures. Je veux dire, mais c'est sûr que c'est au moins, je sais pas, je crois que c'est 45 ou un truc comme
alors,
ça.
Alors, ouais, c'est quoi, c'était quoi votre amplitude horaire lorsque vous étiez au
45
au
heures, c'est ça, à peu près, par semaine.
Ah, voilà, j'ai aucune idée. J'y allais vers 11 heures. Et puis, ça pouvait rester toute l'après-midi s'il y avait besoin. Et puis,
Il y a besoin pour quoi faire, du coup, s'il n'y a pas de clients l'après-midi?
Ben, ça dépend. Des fois, il y a des clients qui prennent le temps. Dans des établissements comme ça, ce n'est pas forcément que pour manger en 10 minutes.
D'accord.
C'est surtout pour le plaisir de la table. Donc, la belle assiette, les bons produits, le bon vin, ça peut se prolonger. Mmh. C'est le plaisir de la table. C'est très français, cette histoire. Okay. Hein.
Ouais, donc, en fait, il n'y a pas trop d'horaire.
Moi, je n'ai jamais compté mes heures.
Vous, c'est un métier passion, on va dire.
Oui, c'est la passion. Il faut, je ne sais pas si la passion, c'est une bonne chose, mais en tout cas, moi, j'ai bien vécu toute cette période en apportant du service et en essayant de faire le mieux possible pour que les gens soient heureux. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est dans mon ADN de rendre les gens heureux. Alléluia.
Et une autre question aussi, parce qu'on en parle beaucoup actuellement, il y a énormément de postes à pourvoir dans la restauration, que ce soit cuisine ou service, quoi. Et ils n'en trouvent pas, en fait. À votre avis, c'est quoi le problème? Les horaires, le salaire, l'attitude des patrons, les clients?
Alors, je pense que vous avez tout dit, j'imagine, oui, tout ça.
Ah bah
oui,
c'est à vous que je pose la question.
Ouais, mais moi je peux être d'accord avec ça, ça me dérange pas, je sais pas, j'ai pas une vision très élargie de ce qu'est le...
De la difficulté ou...
Mais oui, il y a des...
Vous avez toujours travaillé ces 30 dernières années, vous étiez au même endroit, donc
ouais.
Vous n'avez pas été confronté forcément à des...
À chercher du boulot, ben non, c'était très bien où j'étais. Non, c'était... Enfin, le côté social, tout ça, je perçois pas tellement, à vrai dire.
Ouais, donc vous comprenez pas trop.
Je comprends que c'est problématique, mais qu'est-ce que je peux vous dire que effectivement, il y avait beaucoup d'horaires. Alors c'est peut-être que les gens ne veulent pas travailler autant.
Le samedi ou le week-end.
Ouais,
ou
voilà, il
n'y avait
pas de fête, pas de soirée, pas de. Alors moi, j'étais très content parce qu'en fin de compte, comme je n'étais jamais chez moi le soir, je n'avais pas à supporter la télévision.
D'accord.
Et ça, c'est quand même bien.
Alors du coup, mais la vie de famille est gobe par contre.
Clap, ah, oui. Gobe, ouais. Gobe cher. Hein. Mais gobe cher, moi j'ai trois gamins, ils sont heureux comme toi. Enfin, ils sont heureux. Êtes-vous heureux? Bonne question. Est-ce que mes enfants sont heureux?
Je ne sais pas, si j'ai peut-être raté quelque chose.
Ça tombe bien, on en a un en direct au téléphone, c'était la surprise. Et apparemment, il n'a pas l'air d'accord. Là. Petite plaisanterie de ma part au passage. Quoi. Mais bon, bref, je trouve ça assez surprenant où je me pose des questions. Mais pourquoi la restauration au sens large ne le recrute pas? Il n'y a pas de candidat, en fait, les gens ne se présentent pas. Quoi, là, ouais.
C'est sûr qu'il y aura un salaire plus.
Voilà, il y a donc.
Peut-être que ça peut jouer, ouais.
Ça peut jouer,
certainement,
croyez...
j'imagine. Ouais,
parce que vu l'amplitude horaire, vu le fait que la vie privée gobe, ça serait peut-être pas mal, effectivement, que derrière, il y ait... Et, alors, les patrons vont dire, oui, mais on n'arrive pas à
avoir...
Non, mais
c'est un métier d'esclave, faut pas oublier. Moi, j'ai toujours considéré d'être esclave de ce délire. Mais d'un autre côté, c'est un sacerdoce.
Okay.
D'accord. Tu as envie de rentrer dans un truc comme
ça. Vous nous expliquez, en fait, c'est plus des métiers de passion, en fait, qu'on fait, que les métiers...
Si la vie n'est pas passionnante et vous passez, quand vous travaillez, vous passez des heures, mais que ce soit en restauration ou dans un autre métier, vous passez des heures dans un endroit, si ça ne vous plaît pas, c'est nul. Il faut changer.
Donc,
automatiquement, il y a une notion qui est beaucoup plus importante que... effectivement, le salaire, c'est important. Effectivement, les conditions de travail et tout ça. Mais bon, moi, je n'ai pas de vision très globale de ça.
D'accord.
On s'écoute un petit mix et puis après, du coup, on va aborder un petit peu la vie que vous aviez déjà en parallèle pendant que vous étiez maître d'hôtel et la vie que j'imagine vous allez encore plus développer maintenant que vous êtes.
Ah, des radis, je vais vous en mettre partout.
Voilà. Bon, alors que l'heure tourne.
Allez-y, Roger, c'est
s'il y avait une putain de lumière rouge, peut-être qu'effectivement.
Il y a mon doigt.
Son doigt.
Tant que vous ne voyez pas mon doigt, c'est que.
Le bout de son doigt est bien rouge. Hein,
l'autre partie, donc, de votre carrière, monsieur Arthur Lukin. Allez, pourquoi Arthur Lukin ?
Oui. Arthur Lukin, c'est du breton. Arthur, c'est le sage en breton. Et Lukin, c'est rigolo. C'est tout à fait moi.
Voilà. D'ailleurs,
quand je suis en forme.
Depuis quand vous vous faites appeler Arthur Lukin ?
Dans les années 80, j'étais en France, donc dans le pays d'à côté, n'est-ce pas ? Et j'avais déjà un travail artistique, je faisais des livres d'art uniques et je cherchais un logo, un emblème pour ce travail littéraire. C'est là où je suis tombé sur le radis, padaboum, je vous l'expliquerai plus tard si vous le souhaitez. Bah. Et donc j'ai appelé, j'étais le fou du roi. D'accord. J'écrivais des livres uniques reliés à la plume et je ne m'adressais qu'à Sa Majesté le lecteur. J'étais le bouffon, le fou du roi. Et voilà. Et en breton, pour retrouver, quand je suis arrivé en Bretagne, qui est quand même mon pays d'origine.
Bah oui, Perros,
quand même. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai transformé le bouffon production en Arthur Lukin.
Voilà. Et est-ce que... Alors, en fait, les premières références artistiques que j'ai retrouvées, moi, remontent à 1979, avec un happening à Manchester.
Ah bah oui, j'étais en Angleterre.
Est-ce que vous pouvez nous en parler ? We are in the same bunch. Vous travailliez en Angleterre à l'époque ?
C'est ça.
Et alors, le happening, moi, ça me parle. Moi, j'aime bien ce plan-là, l'année 60, la gîte propre, etc. C'est rigolo, ça.
Alors, je travaillais dans un restaurant, quand même.
Ah oui, j'imagine.
Et il y avait, entre autres, de très agréables serveuses dans ce restaurant et qui m'ont permis d'aller à droite et à gauche, dans les pubs. Et il y avait aussi des fêtes, des fois. C'est un peu l'époque, des Sex Pistols, vous voyez.
Ah oui, 79, punk.
Loin, et puis donc, surtout, c'était London Collins, c'était...
Ouais, les Clash.
Les Clash, c'était les Clash, bien sûr, à cette époque-là.
Ouais. Une belle époque, hein.
Bon, bien. Et donc, une journée, parce que moi, j'étais arrivé, je sortais de l'armée. J'avais une valise entière remplie de cigarettes troupes. À l'époque, à l'armée, on donnait des cigarettes troupes. Ouais. Du gros tabac brun, sans filtre.
Et ils avaient bien ça, les punks anglais.
Et les Anglais ne connaissaient pas ça. Ils avaient ces clubs de nénettes avec des bouts jaunes, là.
Oui, non, mais que Roger fume allègrement, là.
Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'étais le roi du monde, là-bas. J'avais 19 ans. Et donc, bref, j'ai appâté les filles avec les clopes. Bref, ceci dit, à la finale, mes bouquins, enfin, ce que j'écrivais à l'époque, je les ai transformés en happening, en déclamant mes textes que j'avais plus ou moins traduits, mais justement c'était ça qui était drôle, c'était de la poésie en quelque sorte, mais ma poésie traduite par moi qui ne connaissait pas trop la langue anglaise, et après déclamée avec gestuelle ou ce qu'on voulait, ou petite mise en scène on va dire, eh bien c'était assez sympa, ouais, c'était une belle époque, c'est marrant, mais c'est toujours une belle époque, hein.
Et par contre,
de le vouloir.
Le radis, c'est à partir de 85 en fait que vous tombez dans le radis.
Alors, en fin de compte, avec mes livres d'art uniques reliés à la plume, je cherchais un logo, un emblème pour ce travail littéraire. Mais comme j'étais loin de mes racines bretonnes, j'étais à l'étranger, donc loin de mes racines bretonnes, eh bien, pour m'en rapprocher, racine, radicier, radix, étymologiquement, je tombe sur le radis. Et c'est comme ça que j'ai commencé par un tampon pour les bouquins. Je me suis fait tatouer un radis sur le bras et j'ai dit « Ma vie sera radieuse !» Et ça marche.
Et effectivement, puisque dès 1900...
Bien sûr, je vous montre mon tatouage, parce qu'autrement, vous n'allez pas me croire.
Ah oui, effectivement. Et ce n'est pas un navet, c'est pas une betterave rouge.
Il va falloir le rafraîchir. Je peux vous... Je fais des tests, une école de tatouage. Je peux vous le rajeunir, si vous le souhaitez.
Et donc, du coup, dès 1996, d'après mes sources, on a la mise en place du projet Rennes Paradis. 4 expositions, 4 lieux, édition d'un guide poétique et littéraire sur Rennes. C'est véritablement là, en 96, donc on va dire depuis 26 ans pratiquement, que le radis a
fait son
entrée
fracassante
sur Rennes, c'est ça ?
Bah, fracassante, non, parce qu'à l'époque, non, c'est faut être...
Encore confidentiel
Plus ou moins. Il y avait un bouquin, il y avait ma participation à différentes manifestations artistiques en essayant de me montrer, en disant « J'existe, regardez, il y a des radis, c'est mon truc, les radis. » Mais j'écrivais pas que sur les radis. J'écrivais... Le petit bouquin « Reine Paradis », c'était justement... Ma vision de la ville. Donc je me suis promené, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai fouillé, puis j'ai commis cet ouvrage. Voilà. La littérature, c'est très important pour moi. Derrière le radis, il y a un poète. On peut m'appeler aussi, enfin, on peut considérer que je suis un poète militant.
Mm-mm.
Voilà.
Et du coup, il y a quand même aussi toute une dimension, vous aimez bien le gigantisme, parce que moi ce que j'aime bien, c'est le côté un peu impromptu des choses, de voir y a un petit côté surréaliste un petit peu, quand on voit un radis dans un endroit où on ne devrait pas en voir un, par exemple devant le lycée Zola, il n'a pas bougé celui-ci.
Non, le petit radis en mosaïque, ouais. La maquette du radis géant, ouais.
Ouais.
Il est sympa, ouais, c'est sympa.
Et cette espèce de radis géant qui est normalement au jardin...
Après les prairies Saint-Martin, voilà, la coulée verte, à l'entrée de la coulée verte.
Il est toujours, vous le voyez, il est toujours en bon état, toujours, il tient bien.
Ah ouais, bah ouais, c'est fait pour, hein, c'est une structure métal recouverte de résine et recouverte de la mosaïque, stylo
de Rico. Il y a un petit côté mégalo, un petit côté gigantesque, parce que déjà en 98, vous aviez réalisé un radis de 65 mètres de long, 30 mètres de diamètre, 1542 pieds, oui. Au lac de la Matenale en Pyrénées-Orientales, ils vous ont chassé.
Non, 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 c'était un truc artistique de land art. Et donc, en contrebas de... C'était l'été, donc j'ai créé un radis géant.
Vous avez fait comment pour faire ça, 65 mètres de...
Mais en fin de compte, c'était un lac qui était en... L'été, il était plus bas.
Ouais.
Donc, il y avait comme une sorte de plage. Et donc, beaucoup de pierres. Et donc, pendant 15 jours, j'ai bougé des pierres. Comme ça, j'ai créé un radis, la forme de mon radis, un peu stylisé, vous voyez. Et ensuite, j'ai emballé toutes ces pierres avec du papier d'aluminium. Et comme on était en contrebas, quand vous étiez en haut, sur les hauteurs, vous voyez un radis géant qui scintillait.
Excellent.
Voilà. Ça n'a pas forcément été pris d'avion, photo, mais ça aurait pu être rigolo.
Il y a eu des photos, vous avez des photos?
Oui, bien sûr, il y a des photos.
On s'écoute un petit Dix et puis on revient.
On continue, d'accord, c'est
21h44. We'll be right back. Leur tourne. Nous sommes toujours en compagnie de Arfurlukin. Donc des radis, il y en a eu plein, des plus ou moins gros. Il y en a qu'on voit encore en plein centre-ville devant le lycée Zola. Il y en avait un géant que vous aviez mis, comment dirais-je, du côté de, comment que ça s'appelle, aidez-moi, à la porte de Saint-Brieuc, route de Saint-Brieux, à l'entrée de la route de Saint-Brieux.
Le Mail.
Au Mail, ouais. Qui maintenant se trouve effectivement dans les...
Les Prairies Saint-Martin, au début de la Coulée Verte, voilà. Le radis géant de Rennes, tout en mosaïque. Ouais,
vous n'êtes pas tout seul, vous, en plus vous avez carrément créé une association, vous avez converti un certain nombre d'adeptes.
Alors tout à l'heure vous parliez de secte et maintenant c'est d'adeptes, non, faut se calmer à ce niveau-là. Mais mis à part ça, il y avait effectivement créé une association, enfin c'est pas moi qui l'ai créé, mais il y avait une association pour soutenir le projet du radis géant. Grâce à qui ça a permis de faire cette œuvre monumentale sans que ça coûte cher
à radis,
à la municipalité, puisque ça a été offert.
Voilà, parce qu'il y a aussi toute une polémique, on dit « Oh, Arfurlukin, il tourne avec la mairie, on voit bien la mairesse qui va boire des coups, le maire qui va boire des coups, au galopin et tout. » En fait, jamais, vous n'avez toujours couru, vous n'avez jamais bénéficié d'aide particulière de la part de la mairie.
D'aide particulière, si vous parlez que d'argent,
voilà.
Non, c'est pas comme ça que ça s'égoupille, c'est sûr.
Et si on parle d'autre chose?
L'autorisation de déposer dans l'espace public.
Voilà, on ne crée pas une œuvre si monumentale en arrivant comme ça. Donc effectivement, des relations avec des décideurs, on va dire, m'ont permis de créer cette œuvre. C'est bien heureux pour moi, parce que ça m'amuse, et je crois que ça amuse beaucoup de gens, donc c'est super.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, vous vouliez mettre en avant...
Oui, et mettre en avant effectivement votre actualité. Il y a les carnets sonores, il y a aussi... vous vouliez parler de quoi également?
On peut parler de plein de choses, mais en gros, l'actualité c'est quand même les monuments aux vivants, c'est-à-dire des radis géants, enfin un peu moins géants que celui qui est sous la Coulée Verte,
au Prairie Saint-Martin,
qui fait 6 mètres de diamètre. Donc, mais les autres feront qu'en 3 mètres de diamètre, mais avec des bancs autour. Et l'idée c'est d'implanter, c'est de faire pousser ces radis dans des parcs, dans des... sur des placettes dans chaque ville et village de France. Et je veux mettre autant de monuments aux morts, de monuments aux vivants qu'il y a de monuments aux morts. C'est aussi simple que ça.
Révélateur en fait.
Non, surtout pas. C'est le vivant qui m'intéresse.
Bah, bien sûr.
Il va y avoir du boulot. Et puis pour donner carrément une autre dimension à vos œuvres écrites, vous travaillez en collaboration avec Fabienne Gouillet, c'est bien ça?
Ah oui, parce que Fabienne a fait une captation sonore d'un de mes textes, qui est un petit ouvrage où je décline ce que sont les racines, puisque quand on parle de radis, on parle de racines, bien sûr. Et logiquement, j'ai écrit cet ouvrage sur les racines qui sont anonymes, féminines, rêveuses, brumeuses, hélicoïdales, sonores, des combats, surréalistes. Et en fin de compte, à chaque fois, chaque mot correspond à un petit texte que j'ai écrit, qui est poésie, mon style d'écriture. Et donc, ça a été dit par plusieurs personnes, et on peut entendre donc ces textes lus. Et puis c'est une prestation, enfin il y a un habillage sonore, quoi. Ça c'est un vrai travail de Fabienne qui est portraitiste sonore aussi. C'est-à-dire qu'elle peut vous faire votre portrait.
Ça veut dire quoi, portraitiste sonore?
Ben, en fin de compte, elle vient chez vous avec un micro et puis vous racontez ce que vous voulez, votre vie si vous voulez. Et puis grâce à ça, avec un habillage sonore autour de ce texte, de ce que vous avez dit, ça vous permet de donner à vos petits-enfants, par exemple, ce que vous avez envie de transmettre.
C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, on a reçu une biographe justement.
C'est dans le même principe, mais avec la voix. Et la voix, c'est vachement important, quoi. Garder la voix de ses anciens,
tout à fait.
Plutôt sympa.
Ouais. Alors je vois Tom qui s'agite.
Justement, alors là, il y a Tom qui est véritablement dans l'incompétence la plus noire.
Non, c'est certainement Mac.
C'est certainement Mac. Arrêtez d'être gentil comme ça, vous êtes invité. On vous a reçu comme,
un
chien.
La clé marche, mais c'est un raccourci qui est dessus, en fait. C'est pas le fichier.
Ah, ça m'est arrivé souvent, de me mettre un raccourci.
Du coup, c'est raccourci, du coup, il n'y a pas de
chien. Je suis pas au top au niveau informatique, je vous prie de m'en excuser.
Je vous ai pas envie de finir millionnaire, en fait, là.
Ça passe par là.
Imaginez, parce que c'est vrai, parce qu'on parle de sculpture réaliste. Pour rebondir là-dessus, est-ce que vous passez par Internet aussi pour présenter vos...
J'ai une page Facebook, faut aller voir, vous verrez plein de radis partout. Ouais. Et puis j'ai aussi un site internet, bien sûr, qui permet de montrer tout ce travail artistique depuis 40 ans autour d'un même sujet, le radis. Des petits, des grands, de toutes les formes, de toutes les tailles, enfin, de toutes les techniques différentes. C'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est toujours le même radis que je décline.
Alors là, ce soir, on va pas pouvoir faire écouter les carnets sonores, nous le regrettons. Mais par contre, depuis 2020, vous avez fait paraître Père et Fils, dialogue en audio et en e-book. Est-ce que c'est pareil avec la collaboration avec la même personne ?
Non, ça, je l'ai fait par moi-même et c'est pour ça que c'est moins bon. C'est beaucoup moins bon.
C'est beaucoup moins bon. Et comment on peut faire ? Alors, on est rudement frustré parce qu'on n'a pas pu écouter carnet un exemple justement du travail que réalise donc Fabienne Gouillet à travers ses carnets sonores. Comment on peut faire pour se le procurer ?
Eh bien, on va sur le site.
D'accord. Et si on met le site, on pourra avoir accès justement à des extraits de...
Mais certainement.
Yep.
Et vous pourrez retrouver toutes ces coordonnées sur le blog des Grignoux. Alors, faut pas taper Canal B, faut taper Grignoux sans X, sans S. Vous tombez direct dessus et là, normalement, on trouvera tout votre... Voilà, Facebook et la suite. Roger.
Et du coup, comme il nous reste encore 2-3 minutes, est-ce que comment... alors, des radis, il en reste. Alors, vous avez mené plusieurs opérations. Il y a une opération qui était rigolote, c'est quand vous avez mené une opération avec la Poste pour emballer les boîtes aux lettres.
Oui, c'était très sympa.
Ça n'a pas été trop compliqué avec la Poste. Avec la Poste, ça ne doit pas être simple.
Ah non, c'était très bien.
Et ils ont accepté ce délire-là.
Oui, je suis le seul artiste à avoir eu l'autorisation de travailler sur les boîtes aux lettres de la Poste.
Donc vous avez habillé. Pas toutes les boîtes aux lettres de la ville, quand même.
Oui.
Si, quand même.
Ah ouais, il y en avait plus de 30, je crois.
Non,
peut-être pas toutes, mais on en a fait plus de 30. Ouais.
Et du
33,
coup,
je crois.
Vous avez fait tout seul ou c'était encore
Non, c'était une organisation. C'est pas une association. Là, c'est des amis qui m'ont aidé pour faire une opération. En une seule journée, on a réussi à emballer tout ça.
Comment on habille une grosse boîte aux lettres jaune en radis ?
Avec du film plastique et de la bombe de peinture et des tuyaux de chantier. Et la demande particulière de la Poste pour pouvoir quand même utiliser la boîte parce qu'il faut bien récupérer le courrier. Donc il y avait toute une logistique et une organisation pour créer cette œuvre rigolote.
Ça me rappelle un peu. Je vais revenir justement à une couleur locale à Trestel où il y a un artiste il y a une quinzaine d'années en fait qui avait demandé aux gens si vous voulez je personnalise vos poubelles. Vous savez les poubelles qu'on sort.
Personnaliser la mienne déjà.
Et c'était génial, quoi, parce que les gens donnaient un motif ou une photo bien, ou un truc bien. Comme ça. Quoi. Et c'était vraiment une idée extraordinaire qui n'a jamais été reprise.
Il faut amener de la couleur, de la joie et de la légèreté dans ce monde. Donc,
mais si je peinture ma poubelle officielle de la ville, je risque des ennuis ou pas ? C'est vrai ? On ne dit rien ?
Bien sûr.
Non, mais c'est une question
question, mais moi, à mon sens, non. Au contraire, ça égayerait la ville.
Oui.
Je suis prêt à mettre des radis sur toutes les poubelles de la ville.
Oui, mais le problème, c'est qu'elles vont passer dans la machine, elles vont la structure qui habille le radis, à moins qu'on les peigne en rouge, elles soient simplement peintes.
Non, c'est peint, ce serait peint. Moi, la mienne, elle est peinte, c'est tout.
Je peux vous dire, à Trestel, je vois encore des vieilles poubelles, entre guillemets. Ouais. Le motif tient toujours, malgré les années. Et il faut passer à la main, c'est une machine. Qui fait ça. Je vous ai donné une idée géniale, en fait. Personne l'a reprise, en fait.
Non, ça existe déjà. Hein.
C'est vrai.
Celui-là, je ne connaissais pas, mais j'en connais d'autres.
Je vous en parlerai hors antenne de l'artiste, là.
Et donc, du coup, il va être plus que temps de se dire au revoir. Par contre, vous avez plein de temps maintenant. Ça vous manque plus trop de vous lever à très tôt, d'imaginer que vous allez avoir des journées quand même bien entraînantes, etc. Ça, c'était comment la rupture au début ? J'aimerais bien savoir, parce que nous, avec Macron, on n'aura pas de retraite, c'est fini. Donc, ça fait comment ?
Si, mais à 65 ans, vous êtes pressé, Roger.
Pour moi, tout va bien. Hein.
Oui.
Le matin.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Il a eu sa retraite à son âge.
Moi, je suis heureux, c'est
le
bon.
Le premier jour, quand
je bosse, j'ai bossé pendant tant de temps. Maintenant, je m'amuse avec mes radis. La vie est belle. Hein.
Et pour rassurer les libéraux, ça ne vous manque absolument pas. Vous n'avez pas envie de rembrayer.
Moi, je rassure tout le monde.
Très bien.
On se met un petit disque et puis on se dit à la semaine prochaine.
Et puis on se dit à la semaine prochaine tant qu'on a le droit.
C'est moi, normalement, qui vous dis salut à la semaine prochaine.
Et
c'est
moi normalement, tant qui qu'on dit a ça. Le droit.
Oh baby, I loved you. Please come back to me. I miss you. You're the best. Baby, without you by my side, my whole complexion is a mess.
Freaks aren't for kids, not for silly rabbits.
Turn to chapter 37, and we will all sing hymns.